Chapitre 9. Engagement. Nous avons subi une grande perte, et cela à cause d'un pari stupide entre des novices aussi peu raisonnables que des enfants. Par ordre du maître d'art Boiscoudé, toutes marques devront être effacées des pires témoins. Par ordre du maître d'art Boiscoudé, il sera désormais interdit aux candidats ou aux novices d'approcher des pires témoins, sauf si le maître d'art les accompagne. Par ordre du maître d'art Boiscoudé, tout savoir concernant l'usage des pierres témoins sera désormais réservé au seul candidat au statut de maître. Extrait d'un manuscrit d'art. Quand, à l'aube ce matin-là, je gravis les escaliers secrets qui me ramenaient à la tour d'Imbre, je me trouvais au bord de l'épuisement complet, et je n'arrivais plus à aligner de pensées cohérentes. Le prince et le conseiller devaient prendre la mer l'après-midi même pour rentrer, après avoir convié les Kaempra de tous les clans à la fête des moissons. Ketriken devrait organiser les préparatifs des plus grandes festivités qu'eût jamais connues le château de Castelserre. Les invitations à envoyer au duc et à leurs nobles, les victuailles à prévoir, l'aménagement des chambres et appartements, les ménestrels, jongleurs et marionnettistes à engager, tout cela me donnait le tournis, et je n'avais qu'une envie, m'allonger et dormir. Au lieu de cela, une fois arrivé, je ravivais de quelques morceaux de bois sec les braises mourantes de l'âtre. Je remplis un broc à la barrique d'eau et le vidais dans la vieille cuvette de toilette où je me plongeais le visage. Je me redressais, me frottais les yeux jusqu'à ce que l'impression d'avoir du sable sur la cornée disparût, puis me séchais. Je me tournais vers le petit miroir que j'avais toujours vu là et ne reconnus pas celui qui me rendit mon regard. Le sens des paroles qu'avait prononcées le fou s'éclaircit soudain. Je me trouvais désormais dans un temps que je n'avais pas prévu, situé au-delà de ma mort. Des avenirs que je n'avais jamais imaginés s'étendaient devant moi, dont j'ignorais lequel je devais préférer. Je m'étais rapproché du trône, dans les faits, sinon par volonté propre. Avais-je ainsi oblitéré de ma vie toute possibilité d'existence future avec Molly? L'épée de chevalerie n'avait pas bougé du mur où je l'avais accrochée. Je la pris. Elle allait à ma main comme si on l'avait forgée pour moi. Je la brandis à bout de bras et demandai dans le silence de la chambre vide. « Que penseriez-vous aujourd'hui de votre bâtard, roi chevalerie ?»« Ah, mais j'oubliais, vous non plus n'avez jamais porté la couronne. Nul ne vous a jamais appelé roi chevalerie. » Je baissai la pointe de l'arme jusqu'au sol en signe de soumission au destin. Et nul ne ploiera jamais non plus le genou devant moi. Mais j'ai tout de même envie de laisser une trace de mon passage. Un tremblement étrange me saisit, suivi d'une impression de calme. En hâte, je remis l'épée à sa place, puis frottai mes paumes moites sur le devant de ma chemise. « Le beau souverain que voilà, me dis-je, qui s'essuie sur son uniforme de garde quand il transpire. » J'avais besoin de dormir, mais cela devait attendre. « Sir Fitz, le monarque bâtard. » Je pris ma décision et refusai d'y revenir. J'ajoutai une bonne bouteille d'eau-de-vie à mon panier, que je couvris d'une serviette, jetai par-dessus un manteau épais et m'enfuis. Je quittai les couloirs secrets et sortis par la porte des gardes. Comme je traversais les cuisines, je faillis m'arrêter pour m'attabler et me restaurer, mais je me contentais de prélever une petite miche de pain frais du matin dans le réfectoire et de la manger en poursuivant mon chemin. À l'entrée du château, le jeune soldat de faction à demi assoupi m'adressa un vague signe de tête, et je passai sans encombre. Je songeais que je pourrais mettre bon ordre à cette incurie, puis j'écartais cette pensée et m'éloignais à grandes enjambées. Je bifurquai de la route qui conduisait à Bourg de Castelserre pour m'engager sur la piste qui traversait les bois avant de gravir le doux épaulement d'un piémont. Dans la lumière de l'aube, les pierres témoins m'attendaient, tranchant sur le bleu du ciel. Des moutons paissaient à leurs pieds. À mon approche, ils me regardèrent avec cette absence de curiosité que l'on prend parfois pour de la stupidité, puis ils s'écartèrent lentement. Arrivé près des blocs érigés, je décrivis à pas lents un cercle autour d'eux. Quatre pierres. Quatre faces par pierre. 16 destinations possibles. Avaient-elles souvent servi par le passé? Du sommet de la colline, je parcourus des yeux le paysage alentour. De l'herbe, des arbres, et là, discernable seulement si on le savait présent, le creux d'une ancienne route. Si des maisons s'étaient dressées sur ses bords, leurs ruines avaient disparu depuis longtemps, avalées par la terre, ou plus vraisemblablement, récupérées pour bâtir ailleurs d'autres chaumines. Les mains dans le dos, j'étudiais les piliers et acquis la conviction qu'à une époque lointaine, on avait délibérément effacé les runes qui les marquaient. Pourquoi ? Sans doute ne le saurais-je jamais, et je m'en sentis comme rassuré. Le panier pesait de plus en plus à mon bras, et le soleil commençait à chauffer. Je jetai le manteau sur mes épaules. Il ferait froid là où j'allais. Puis, m'avançai vers la face du bloc, d'où j'avais émergé lors de mon dernier trajet. Appliquai ma paume sur la pierre, et m'y enfonçai. Je trébuchai légèrement en débouchant dans la salle du pilier. Puis, la tête me tourna, et je dus m'asseoir sur le carrelage poussiéreux, en attendant que passe le malaise. Pas assez de sommeil. Et deux passages par les pierres à intervalles trop courts, c'est mauvais, me dis-je. Ce n'est pas raisonnable. Je voulus me relever, puis décidai de rester tranquille encore un moment, en attendant que la pièce cesse de tournoyer autour de moi. Il me fallut demeurer quelque temps à terre avant de m'apercevoir de ce qui aurait dû me sauter aux yeux. Le sol n'était plus glacé. Je posai les deux mains à plat sur les carreaux, comme pour m'en convaincre. Je les perçus non pas tièdes, mais plutôt d'une température neutre, ni chaude ni froide. Alors que je me redressais, j'observai que les vitres se dégageaient de leur brume de givre épais. Je crus entendre murmurer derrière moi et me retournai vivement. Il n'y avait personne. Peut-être était-ce le souffle d'une brise d'été vagabonde, d'un vent doux venu du sud qui balayait l'île. Malgré l'insolite de cette hypothèse, je n'avais pas le temps de m'apesantir sur elle. Je quittai la salle et, mon panier au bras, m'efforçai de traverser le labyrinthe le plus vite possible. La migraine me martelait le crâne. Le changement de température me prenait au dépourvu. Dans un couloir, un mince filet d'eau courait sur les dalles du sol. Toutefois, le réchauffement insensible s'atténuait à mesure que je me rapprochais du point de jonction entre les murs de pierre et ceux de glace, où il cessait tout à fait. De petits points noirs dansaient devant mes yeux. Je fis halte et appuyai mon front contre la paroi gelée. Les mouchetures s'effacèrent de ma vision et je me sentis redevenir moi-même grâce à la fraîcheur de la glace. Quand je franchis la brèche qui donnait sur les trois sentiers menant à la caverne de l'homme noir, je m'étais emmitouflé dans mon manteau, un pan rabattu sur mon panier. Je descendis le raidillon et frappai à la porte de l'abri. Personne ne répondit. Je frappai à nouveau, puis, après un moment d'hésitation, soulevai le loquet. Le bâton s'ouvrit et j'entrai. Il me fallut quelques instants pour m'habituer à la pénombre. Le feu mourait. Le fou dormait d'un sommeil lourd sur une paillasse installée près de l'âtre. Je ne vis nulle trace de Prilcop. Sans bruit, je fermai la porte, posai mon panier sur la table basse et ôtai mon manteau. Puis, je m'approchai du fou et m'accroupis pour examiner son visage. L'assombrissement de son teint devenait déjà visible. J'avais envie de le réveiller pour lui demander comment il allait. Repoussant résolument cette impulsion, je déballai les vivres que j'avais apportés, disposai le pain et le fromage sur une assiette de bois et les fruits dans une corbeille. La barrique d'eau était presque vide. Je mis ce qu'il en restait à chauffer pour la tisane, puis, muni des seaux de l'homme noir, je sortis et descendis là où le ruisselet qui coulait le long de la falaise franchissait un léger surplomb et dégouttait dans le vide. J'attendis que les récipients se remplissent, puis je les rapportai dans la caverne. Dans la cheminée, l'eau bouillait et je préparai une tisane odorante aux épices. Je pense que ce fut cet arôme qui tira le fou de son assoupissement. Il ouvrit les yeux et, sans bouger, contempla le feu ravivé. Il resta immobile jusqu'au moment où je demandais « Fou, te sens-tu mieux ?» Alors il sursauta, tourna vivement la tête vers moi, puis se roula brusquement en boule. Je compris l'origine de ce réflexe et regrettai de lui avoir fait peur. Sans m'étendre sur le sujet, je me bornai à déclarer. Je suis revenu et j'ai rapporté des provisions. As-tu faim ? Il repoussa légèrement ses couvertures, se redressa à demi, puis se laissa retomber sur sa paillasse.
« Je me rétablis. La tisane sent bon. »
Il n'y avait pas d'abricots, mais je t'ai pris des prunes.
« Des abricots ?»
Je pensais bien que ton esprit battait un peu la campagne quand tu m'en as demandé, sans doute sous l'effet de la fièvre. Néanmoins, si j'en avais trouvé, j'en aurais chapardé quelques-uns pour toi.
« Merci. »
dit-il. Puis, il me dévisagea.
« Tu as quelque chose de changé. Et ce n'est pas seulement parce que tu t'es lavé. »
Je me sens différent, en effet. Mais la toilette y contribue quand même. J'aurais aimé pouvoir t'apporter aussi les étuves de Castelserre. Ça t'aurait fait du bien. Mais dès que tu pourras te déplacer, je te ramènerai. J'ai prévenu Ketriken que nous t'installerions dans la vieille salle d'Imbre, dans la tour, le temps que tu te remettes complètement et que tu décides de ta prochaine incarnation.
Ma prochaine incarnation ?
Il eut un petit gloussement amusé. Comme je ne trouvais pas de couteau approprié pour couper le pain, j'arrachai un quignon de la miche à la main. Je le lui apportai, accompagné de fromage et d'une prune. Puis, je lui remplis une tasse de tisane quand elle eut fini d'infuser. « Où est pris le cop ?» demandai-je tandis qu'il en buvait une gorgée. Je jugeais un peu cavalier de sa part d'avoir laissé le fou seul.
« Oh, dehors, quelque part. Il examine la place forte des anciens pour se rendre compte des dégâts qu'elle a subis. Nous avons pu bavarder pendant ton absence, du moins pendant les périodes où je restais éveillé. Il n'y en a pas eu beaucoup, je crois. Il m'a parlé de la vieille cité, mais ses anecdotes se mélangent à mes rêves. À mon avis, il doit être en train de fureter dans ses couloirs glacés. Il m'a dit vouloir constater les dégradations qu'elle leur a infligées et déterminer ce qu'il pouvait réparer. J'ai l'impression qu'il s'est débrouillé pour rendre la cité la moins accueillante possible dans l'espoir d'en chasser l'intruse et qu'il veut désormais la remettre en état. « Pour qui ?» lui ai-je demandé. « Peut-être pour le simple plaisir de la remettre en état, a-t-il répondu. Il y a vécu seul d'innombrables années après la mort de ses compagnons, des générations peut-être. Il n'a pas tenu le compte du temps passé, mais je suis convaincu qu'il est là depuis très longtemps. » À l'arrivée de la femme pâle, il l'a accueillie à bras ouverts car il croyait qu'elle venait, avec son catalyseur, l'aider à remplir sa mission.
Il reprit son souffle et but un peu de tisane. « Restaure-toi. Tu me raconteras tout ça plus tard, lui suggérai-je.
« Dans ce cas, parle-toi pendant que je mange. Il t'est arrivé quelque chose de très important. Ça se lit dans ton maintien et dans ton regard. »
Alors, je lui narrai, comme je ne l'eusse fait à nul autre, tout ce que j'avais vécu. Il sourit, mais d'un sourire teinté de tristesse, et hocha la tête comme si je ne faisais que confirmer ce qu'il savait déjà. Quand je me tus enfin, il jeta son noyau de prune dans le feu et dit à mi-voix,
« Eh bien, je me réjouis d'apprendre que ma dernière vision, ma dernière prédiction, était juste. »
C'est donc une longue et heureuse existence qui m'attend désormais, comme le chantent les ménestrels. Un pli amer tordit sa bouche, et il secoua la tête.
Tu vivras au milieu de gens qui t'aimeront et attendront beaucoup de toi. Ça te compliquera épouvantablement l'existence, et tu passeras une moitié de ton temps à te ronger les sangs pour eux, l'autre à t'en agacer, et à en savourer le bonheur.
Il se détourna, prit sa tasse, et y plongea le regard, comme une sorcière des haies en train de lire dans les feuilles de thé.
« Le destin a renoncé à s'en prendre à toi, Fitz Chevalerie loin voyant. Tu as gagné. Dans l'avenir où tu as pénétré, il est probable que tu atteindras un âge avancé, au lieu de risquer à tout instant de te faire éjecter de la partie. »
Je m'efforçais de prendre un ton badin en contrepoint de la gravité de ses propos. « Tant mieux. Je commençais à en avoir un peu assez qu'on m'arrache à la mort toutes les 5 minutes. »«
C'est horrible. Je le sais à présent. Tu me l'as montré. »
Et l'ombre de son sourire d'autrefois joua sur ses lèvres quand il me demanda.
« Disons que nous sommes quittes et n'en parlons plus, d'accord. La dernière dette efface toutes les autres. »
J'acquiesçai. Il reprit aussitôt, comme s'il devait parler avant que je ne l'interrompe.
Prilcop et moi avons discuté de la suite des événements.
Je souris. Un nouveau plan pour sauver le monde? J'espère que je ne serai pas obligé de mourir trop souvent cette fois.
Tu n'y as aucune part, répondit-il à mi-voix. Il s'agit pour nous de rentrer chez nous, d'une certaine manière, de revenir là où notre personnalité s'est façonnée.
Mais tu disais que personne ne se souviendrait de toi là-bas, qui retournait ne présentait aucun intérêt. L'inquiétude me gagnait.
Là où j'ai vu le jour, non, en effet, nul ne me reconnaîtrait, j'en suis sûr. Mais je pense au lieu qui nous a préparés, Prilcop et moi, à faire face à notre destin. On pourrait le décrire comme une espèce d'école. Je t'en ai parlé, et je t'ai raconté aussi que je m'en étais enfui parce que mes maîtres refusaient d'admettre la réalité de ce que je leur disais. Là-bas, on ne m'aura pas oublié, et Prilcop non plus. On s'y rappelle tous les prophètes blancs qui y sont passés.
Eh bien qu'ils les gardent leurs souvenirs, il me semble qu'ils ne t'ont pas trop bien traité. Pourquoi y retourner?
Afin qu'aucun autre enfant ne subisse ce que j'ai subi, afin de faire ce qui n'a jamais été fait, interpréter à l'intention des maîtres les anciennes prophéties à la lumière de ce que nous savons désormais, extirper de leur bibliothèque tout ce que la femme pâle y a implanté, ou tout au moins y jeter un jour différent, bref, leur rapporter notre expérience du monde.
Je me tue un long moment. Comment vous y rendrez-vous?
Prilcop dit savoir utiliser les piliers. Ensemble, nous pourrons descendre très loin dans le sud avant de devoir trouver un autre moyen de transport. Nous finirons par arriver à destination.
Il sait utiliser les piliers? Je demeurai abasourdi. Mais alors pourquoi est-il resté ici tant d'années à souffrir du froid et des privations? À l'expression du fou, la réponse était évidente.
Il connaît la technique pour les employer, mais il en a peur.
Même dans notre langue natale, il y a des concepts des anciens qu'il a du mal à m'expliquer. La magie qui permet aux piliers d'opérer prélève chaque fois quelque chose à celui qui les traverse. Les anciens eux-mêmes s'en servaient avec précaution. Un courrier chargé d'un objet important en empruntait un, voire deux, mais il confiait ensuite sa mission à un autre. Toutefois, ce n'est pas seulement pour cela qu'il est demeuré ici. Il voulait protéger le dragon et aussi attendre l'arrivée du prophète blanc et du catalyseur dont il avait vu qu'il parviendrait peut-être à mener sa mission à bien, car il s'agissait finalement du but ultime de son existence.
J'ai peine à concevoir qu'on se consacre si totalement à une tâche.
Vraiment? Pas moi, je crois.
J'entendis la porte frotter le sol et Prilcop entra. Il parut surpris de ma présence, comme je pouvais m'y attendre, et lança une question au fou qui traduisit.
Il est stupéfait de te trouver si vite revenu, et demande quelle urgence t'a poussé à braver à nouveau les piliers.
Je fis un geste désinvolte et m'adressai à l'homme noir. Je voulais vous rapporter des vivres. Tenez, voici du pain et du fromage, comme vous le souhaitiez, et aussi du vin et des prunes. J'espérais vous voir prêt à me suivre chez moi, mais le fou paraît encore faible.
Vous suivre chez vous?
Fit-il, et j'acquiesçai de la tête en souriant. Il se tourna vers le fou et lui tint un long discours à mi-voix dans leur langue. Mon compagnon répondit plus brièvement, puis me regarda et déclara d'un ton réticent.
Fitz, mon ami, s'il te plaît, viens t'asseoir près du feu. Il faut que je te parle.
Avec raideur, il se leva, jeta une couverture sur ses épaules et se dirigea lentement vers un coussin bourré d'herbe près de la cheminée. Il s'y installa avec précaution, et j'en fis autant sur un autre à côté de lui. Prilcop, pendant ce temps, examinait les victuailles. Il rompit un morceau de fromage, le plaça dans sa bouche et ferma les yeux d'un air extatique. Quand il les rouvrit, il me remercia d'une inclination de la tête. Je la lui rendis, heureux de lui avoir fait plaisir, puis je me tournai vers le fou qui prit son souffle avant de parler.
Prilcop n'a pas l'intention de t'accompagner à Castelserre, et moi non plus.
Je le regardais bouche bée. Je me répétais ces mots sans parvenir à leur trouver un sens.
Mais pourquoi?
Son travail est terminé ici, tout comme le tien. Pourquoi rester sur une île aussi inhospitalière? Il fait un froid de chien, alors que c'est le plein été. La vie est dure et les ressources maigres. Quand l'hiver viendra... Non, je ne puis même pas imaginer un hivernage dans ces conditions. Rien ne te retient ici, rien du tout, et tout appelle à revenir à Castelserre. Pourquoi voudrais-tu demeurer ici? Je sais, tu souhaites retourner à ton école, mais rien ne t'empêche de passer d'abord par Castelserre. Tu pourras te reposer, prendre le temps de te rétablir et ensuite embarquer pour la destination de ton choix.
Il baissa les yeux sur ses longues mains croisées sur ses jambes.
J'en ai beaucoup discuté avec Prilcop. Nous sommes très ignorants de la situation que nous vivons, de cette existence par-delà le temps où nous jouions notre rôle de prophète blanc. Lui la connaît depuis plus longtemps que moi. Il est resté sur son île parce que c'est le dernier lieu où il s'est vu. Il espérait que son ultime vision d'un autre prophète et de son catalyseur venant achever sa tâche se réaliserait, et il n'a pas été déçu. Elle s'est réalisée.
Son regard se perdit dans les flammes, puis il se pencha pour enfoncer dans le feu un morceau de bois qui dépassait.
« Moi aussi, j'ai eu une dernière vision de ce qui se passerait après ma mort. »
J'attendis qu'il poursuive.
« Je t'ai vu, Fitz. Je t'ai vu au milieu de ce que tu es en train de devenir. Je n'ai pas eu l'impression que tu nageais toujours dans le bonheur, mais tu m'as paru plus complet qu'avant. »
Quel rapport avec aujourd'hui?
Ce que je n'ai pas vu, voilà le rapport. Aujourd'hui, je ne devrais plus être de ce monde, tu le sais. Dans mes visions, il apparaissait clairement que ma mort faisait partie de ton avenir. Non, décrit ainsi, on dirait que tu as ourdi mon trépas. Présentons plutôt les choses ainsi. Ma mort constituait un jalon du trajet que tu suivais. Tu l'avais franchi et tu continuais ta route vers l'existence qui t'attendait au-delà.
J'ai franchi ce jalon en effet, mais comme tu me l'as souvent répété, je suis un catalyseur. Je t'ai ressuscité.
Oui, jamais je n'avais prévu pareil événement, et Prilcop non plus. D'ailleurs, dans aucun texte, aucune archive que nous avons étudiée et apprise par cœur au cours de notre formation, on ne trouve à notre souvenir, le plus petit élément qui laisse augurer d'une telle possibilité.
L'ombre d'un sourire flotta sur ses lèvres.
J'aurais dû me douter que toi seul pouvais opérer un tel renversement, un renversement qui nous a peut-être écartés de tout avenir prédit par les prophètes blancs de tous les temps.
Mais, il me fit taire en dressant un long index.
Prilcop et moi en avons parlé, et il vaut mieux, pensons-nous, que je ne reste pas trop près de toi. Je risquerais de commettre une grave bévue. Ne pas repartir avec toi permet de minimiser ce risque.
Je ne comprends pas. Une bévue? Quelle bévue? Tu as de nouveau de la fièvre et tu ne sais plus ce que tu dis. L'inquiétude et l'agacement s'empoignaient en moi. Je m'agitais sur mon coussin avec irritation et il posa la main sur mon bras. Sa peau avait retrouvé sa fraîcheur. Sa mule l'avait laissé affaibli, mais la fièvre ne dictait pas ses paroles.
« Si, tu comprends, »
dit-il d'un ton presque sévère, comme un vieillard s'adressant à un jeune garçon buté.
« Tu restes le changeur, le catalyseur. Malgré le peu de temps que tu as passé à Castelserre, tu l'as prouvé. Le changement tournoie autour de toi comme l'eau dans un tourbillon. Redevenu toi-même, tu ne le fuis plus, mais parais au contraire l'attirer. Quant à moi, je suis aveugle. Je ne vois rien des bouleversements que mon influence sur toi pourrait causer. Aussi,
il s'interrompit. J'attendis qu'il reprît.
Aussi, ne t'accompagnerai-je pas. Non, ne dis rien. Laisse-moi parler.
Mais il se tut. Assis sur mon coussin, je le regardais en songeant combien il avait lui-même évolué. L'enfant pâle et lunaire, l'adolescent souple et mince était devenu un jeune homme. Les épreuves et les privations qu'il avait endurées avaient durci les angles de son visage, et l'on distinguait encore autour de ses yeux des traces d'hématomes, vestiges de son supplice. Cependant, s'il avait changé physiquement, son regard aussi s'était assombri, et son expression solennelle paraissait due non à une humeur passagère, mais à un tempérament nouveau, plus grave. Je lui laissais le temps de peser ses mots.
Il avait manifestement une décision à prendre et, si résolu qu'il se voulût, son cœur balançait encore.
« Fitz, j'ai affronté ma mort. Sans grand courage, peut-être, mais avec une volonté inébranlable, parce que j'avais vu ce qui pouvait se produire ensuite et jugé qu'il valait la peine d'en payer le prix. J'ai choisi de venir sur l'île où nous nous trouvons et de déclencher les événements qui devaient mener à l'émergence du dragon. Je savais que je mourrais de façon atroce, perclus de souffrance et de froid. Mais je voyais aussi l'occasion de permettre au monde de connaître à nouveau les dragons, de redonner vie à des créatures aussi orgueilleuses et séduisantes que les hommes, afin qu'ils s'équilibrent mutuellement. Je rêvais d'un univers où les humains ne pourraient plus dominer la nature ni lui imposer leur ordre. La paix n'y régnera pas. Et peut-être me maudira-t-on pour le rôle que j'ai tenu dans son avènement. Mais ce sera un monde où les hommes et les dragons auront tant à faire les uns avec les autres qu'ils n'auront plus le temps de soumettre la nature à leurs lois. Voilà la vision globale que j'ai eue.
Très bien. J'en avais assez de l'entendre discourir sur ces créatures, et je restais inquiet de ce que nous avions lâché sur notre monde. Il y aura donc des dragons dans le ciel, et beaucoup, d'après ce que j'ai observé au-dessus du champ de bataille. Mais qu'est-ce qui t'empêche de revenir à...
Chut ! Fit-il sèchement. Crois-tu que ce soit facile pour moi ? Crois-tu que je n'obéisse qu'à des motifs élevés ? Crois-tu que je me sépare de toi de bon cœur ? Non. Mon chemin doit s'écarter du tien à cause d'un élément plus personnel, d'une vision à beaucoup plus petite échelle que j'ai eue. Je t'ai vu, après ma mort, prendre plaisir à des activités, des fréquentations que tu t'es refusées depuis toujours, vivre l'existence à laquelle tu avais droit. Tu m'as donné une rallonge de vie. Voudrais-tu que je m'en serve pour te dépouiller de la tienne ?
D'un ton moins véhément, il ajouta
« Je puis t'aimer, Fitz, mais jamais je n'accepterai que cet amour te détruise. »
Il se passa les mains sur le visage d'un air las, puis poussa une exclamation exaspérée en voyant les lambeaux de peau accrochés au bout de ses doigts. Il le secoua pour les faire tomber, se frotta vigoureusement la figure, puis croisa les mains sur ses jambes et se perdit dans la contemplation du feu. J'attendis qu'il reprît la parole, furieux et désemparé à la fois. Derrière nous, Prilcop s'affairait discrètement. J'entendis un cliquetis et jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Il avait ouvert un sac et en tiré de petits blocs de pierre. Je les reconnus aussitôt. De la pierre de mémoire taillée en cube uniforme, semblable à ceux que j'avais entrevus dans la salle des anciens. Il en porta un à sa tempe, sourit, puis le posa de côté. Répétant ce geste, il forma ainsi plusieurs tas de cubes. Et il m'apparut bientôt qu'il les triait. Il leva soudain les yeux et s'aperçut que le fou et moi l'observions. Alors il sourit et brandit un bloc de pierre. « Musique !» Un autre. « Un peu poésie !» Un troisième. « Histoire, musique aussi !» Il m'entendit un, mais je refusais de le toucher, mal à l'aise. Le fou, en revanche, avança la main et l'effleura d'un doigt enduit d'art. Il l'écarta aussitôt comme sous l'effet d'une brûlure, mais se tourna ensuite vers moi en souriant.
« C'est de la musique, en effet. Un véritable déluge. Tu devrais essayer, Fitz. »
Nous étions en train de discuter, lui rappelai-je à mi-voix, de ton retour avec moi à Castelser.
« Non, nous discutions du fait que je ne retournerai pas à Castelser avec toi. »
Je le regardais sans rien dire. Au bout d'un moment, il s'adressa à Prilcop pour lui demander quelque chose dans leur langue. Au même instant, je sentis Imbre attirer mon attention.
« Je voudrais parler à la reine. »«
Impossible actuellement. Essayez avec lourd. »«
Je ne peux pas, et tu sais très bien pourquoi. Je t'en prie, Fitz, ça ne prendra pas longtemps. »«
C'est ce que vous avez prétendu la dernière fois. De toute façon, la reine n'est pas dans les parages. J'ai traversé le pilier, et je me trouve auprès du fou. »«
Quoi ?» Sans prévenir personne, sans nous consulter.
Ma vie m'appartient encore, que je sache.
Non !
Le démenti était catégorique.
Non, Majesté, hier soir tu m'as opposé ta volonté, et j'ai senti que tu avais l'approbation de la reine. Tu ne peux pas revendiquer ce pouvoir un jour, et t'en défiler le lendemain. Une fois qu'on l'a coiffé, on n'ôte pas si facilement la couronne.
Je ne suis pas vraiment le roi, vous le savez aussi bien que moi.
Trop tard pour adopter cette attitude, Fitz.
Imbre paraissait hors de lui.
« Trop tard ! La reine t'a offert l'autorité, et tu l'as acceptée !»
Je refusais de capituler. J'ignorais si je partageais son avis ou non. Laissez-moi un peu de temps. Vous devez être en mer en ce moment. Maintenant que vous avez embarqué, je ne vois pas quel sujet vital vous presse à ce point.
En effet, cela peut attendre, mais dorénavant, Fitz, il n'est plus question que tu t'absentes sans nous avertir.
Suis-je donc un domestique pour qu'on ne me laisse pas un instant à moi?
Pire, tu es roi et l'oblat de tous.
Son esprit se détacha du mien sans que j'eusse le temps de répondre. Je battis des paupières et me rendis compte que je venais d'entendre la porte se fermer. Prilcop était sorti. Le fou me regardait, conscient, je ne sais comment, que j'artisais, et il attendait que je reporte mon attention sur lui. « Excuse-moi. » Imbre, pressé comme toujours, exigeait un contact immédiat avec la reine. D'après lui, du fait qu'elle m'a désigné, l'espace d'un instant, comme oblat, tous les devoirs et les responsabilités d'un souverain couronné m'incombent désormais. C'est ridicule.
Vraiment?
Bien sûr, tu le sais bien. Mes protestations parurent ouvrir en lui des vannes, derrière lesquelles, pendant que j'artisais, les mots s'étaient accumulés comme l'eau derrière un barrage.
Fitz, se retourne à l'existence qui aurait dû être la tienne, et aime-la sans réserve, c'est ce que je t'ai vu faire.
Il eut un petit rire mal maîtrisé. J'ai même puisé du réconfort pendant mon agonie,
à savoir que tu retrouverais cette vie après ma mort. Lorsque la souffrance touchait à son paroxysme, je fixais mes pensées sur mes visions de ton avenir, et je m'en imprégnais.
Mais elle a dit que tu m'appelais au secours pendant qu'elle te torturait. Je regrettais aussitôt d'avoir prononcé ces paroles. Le fou eut soudain l'air d'un vieillard malade.
C'est sans doute vrai, reconnut-il.
Je n'ai jamais prétendu être courageux. Mais le fait qu'elle a réussi à m'arracher ses suppliques ne change rien, mon ami. Rien. Il se mit à observer le feu comme s'il y avait perdu un objet précieux, et je me sentis honteux de l'avoir ramené au souvenir de son martyre. Il est inhumain de rappeler à quelqu'un qu'il a hurlé de douleur devant des gens qui se régalaient de ses cris.
Je dois sans doute en tirer comme leçon que par bien des aspects, je ne suis pas aussi fort que je le voudrais, et qu'il me faut éviter de me placer dans une position où ma faiblesse risquerait de nous faire mal à tous les deux.
Il me prit tout à coup la main. Saisi, je le regardais et nous restâmes les yeux dans les yeux.
Fitz, je t'en prie, ne me soumets pas à la tentation de t'accompagner et de m'immiscer dans l'avenir que j'ai vu pour toi. Ne me soumets pas à la tentation d'outrepasser les limites de ma vie pour essayer de m'emparer de ce qui ne m'appartient pas.
Il frissonna soudain, comme sous l'effet d'un froid brutal. Il me lâcha et se pencha les mains tendues vers les flammes. Ses ongles commençaient à peine à repousser. Il les frotta l'une contre l'autre, et une fine pellicule, blanche comme de la cendre, s'en détacha. La nouvelle peau ainsi révélée m'évoqua du bois poli. D'une voix très basse, il me demanda
« Aurais-tu supporté de vivre avec œil de nuit parmi les loups ?»
« En tout cas, je n'aurais pas hésité à essayer, » répondis-je, muté.
« Même si sa femelle n'acceptait jamais complètement ta présence ?»
Pour une fois, pourrais-tu énoncer simplement ce que tu cherches à me dire ? Sans me quitter des yeux, il se massa le menton comme s'il réfléchissait sérieusement à la question. Enfin, il eut un sourire triste.
« Non, je ne peux pas, sauf à risquer d'abîmer ce à quoi je tiens par-dessus tout. »
Puis, dans le même souffle, comme s'il poursuivait le même sujet, il ajouta
« Qu'as-tu révélé à un jour à devoir que tu l'as engendré physiquement ?»
L'entendre évoquer tout haut cette question me plongea dans l'inquiétude, bien que nous fussions seuls. Le puissant lien d'art que je partageais avec devoir me faisait sentir l'adolescent tout proche.
« Non, » répondis-je laconiquement.
Trop de situations, de relations lui apparaîtraient sous un jour différent. Il en souffrirait inutilement. L'image qu'il se fait de son père s'en trouverait gâchée, comme ses sentiments envers sa mère, et même ses sentiments envers moi. À quoi bon ?
Précisément. Tu l'aimeras donc toujours comme un fils, mais tu le traiteras comme ton prince, à un pas de distance de là où tu voudrais te trouver. Parce que, même si tu lui apprenais la vérité, Jamais tu ne pourrais être son père. »
La colère me gagnait à nouveau. « Tu n'es pas mon père. »
« Non. »
Il plongea son regard dans les flammes.
« Et je ne suis pas non plus ton amant. »
Une aigreur teintée de lassitude s'empara de moi. « Alors c'est ça, la pierre d'achoppement, le fait que nous ne couchions pas ensemble. Tu refuses de revenir à Castelserre parce que je ne veux pas coucher avec toi ?»«
Non. »
Il n'avait pas crié, mais le ton qu'il avait pris me réduisit au silence. Il poursuivit d'une voix basse, presque gutturale. « Tu ramènes toujours tout à ça, comme s'il s'agissait du seul aboutissement possible de l'amour. » Il poussa un soupir et se radossa brusquement contre le mur. Après m'avoir observé d'un air pensif, il me demanda
« Dis-moi, aimais-tu œil de nuit ?»«
Naturellement. »
« Sans réserve ?»«
Oui. Dans ce cas, selon ta logique, tu désirais être avec lui. » Si je désirais... Non.
Ah, mais uniquement parce qu'il était mal.
Vos autres différences n'avaient rien à y voir. Je restais bouche bée, incapable de prononcer un mot. Il réussit à garder encore quelques instants son sérieux, les traits empreints d'une expression de curiosité non feinte, puis il éclata de rire, avec une spontanéité que je ne lui avais plus connue depuis longtemps. J'aurais voulu me sentir vexé, mais j'éprouvais un tel soulagement à le voir si gai, même à mes dépens, que j'en fus incapable. Il reprit son souffle et déclara « Et voilà, Fitz, en toute simplicité. Je t'ai dit que je n'imposais aucune limite à mon amour pour toi, et c'est vrai. Toutefois, jamais je n'ai espéré que tu t'offrirais physiquement à moi. C'était ton cœur tout entier que je voulais, pour moi seul, alors que je n'y avais aucun droit, car tu l'avais donné avant même de me connaître. » Il secoua la tête. « Il y a longtemps, tu m'as expliqué que Molly n'accepterait jamais ton lien avec le loup, qu'elle t'obligerait à choisir entre elle et lui. »
« Le crois-tu toujours ?»«
Ça reste probable, » répondis-je dans un murmure.
« Et, à ton avis, comment réagirait-elle à ma présence ?»
Il s'interrompit le temps d'un battement de cœur.
« Qui de nous deux choisirais-tu ? Et... dans ce choix, quel qu'il soit, que perdrais-tu ?
Voilà les questions que j'ai dû me poser. Et celle-ci encore. En admettant que je revienne avec toi et que j'intègre cette décision à ton avenir, qu'est-ce que mon catalyseur changera d'autre en faisant ce choix ? Si tu quittes les six duchés pour m'accompagner, quel avenir risquons-nous de déclencher sans même nous en rendre compte ? Je secouai la tête et détournai le visage. Mais ces paroles coulaient en un flot implacable, et je ne pouvais m'empêcher de les entendre.
Œil de nuit avait choisi, lui, entre la meute de loups prête à l'accepter et son attachement à toi. J'ignore si vous avez jamais parlé entre vous de ce que cette décision lui avait coûté.
Ça m'étonnerait.
Le peu que je savais de lui me porte à penser qu'il a fait son choix et qu'il n'est jamais revenu dessus. Je ne cherche pas à te mortifier, mais... n'est-il pas vrai qu'Œil de Nuit a payé d'un prix plus élevé que toi votre lien, l'amour que vous partagiez ? Qu'a-t-il sacrifié pour rester lié avec toi ? Réponds sincèrement.
Je dus baisser les yeux, car la honte m'étouffait. Il a renoncé à vivre au sein d'une meute, à devenir un véritable loup. Il a renoncé à prendre une femelle, à élever des petits, ainsi que Rolf nous en a prévenu plus tard, parce que nous n'imposions aucune limite à notre lien.
Tu as ainsi connu la joie de partager sa nature avec lui, d'approcher autant de l'humain qu'il est possible à un loup. Cependant, pardonne-moi, je ne pense pas qu'il ait jamais cherché l'homme en lui avec autant d'ardeur que tu t'es forcé de devenir loup.
Non. Il me reprit la main et la serra entre les siennes. Puis il la retourna et observa l'ombre de l'empreinte de ses doigts qui marquait mon poignet depuis des années.
Fitz, j'ai longuement réfléchi. Je refuse de te dépouiller de ta femelle et de tes petits. De longues années m'attendent. Par comparaison, tu n'en as plus guère. Et je ne veux pas vous priver, Molly et toi, de celle qui vous reste, car j'ai la conviction que vous vous retrouverez tous les deux. Tu sais ce que je suis. Tu as habité mon corps et moi le tien, et j'ai senti alors Dieu, gardez-moi de ce souvenir. J'ai senti ce que c'est d'être humain, purement humain, pendant les quelques instants où j'ai abrité en moi ton amour, ta souffrance et ta peine. Tu m'as permis de m'approcher de l'homme autant qu'il m'est possible. Ce que mes précepteurs m'avaient arraché, tu me l'as rendu au décuple. Tu m'as connu enfant. Auprès de toi, j'ai grandi et suis devenu adulte. Avec toi, je... Enfin, de la même façon qu'Œil de Nuit t'a laissé partager sa nature de loup. Sa voix mourut, et nous demeurâmes assis en silence, comme à bout de mots. Il n'avait pas lâché ma main. Et ce contact renforçait le lien d'art qui nous unissait. De voir s'agitait aux limites de ma perception pour attirer mon attention, mais je n'y prêtais pas garde. J'avais plus important à faire. Je tâchais de comprendre précisément ce que craignait le fou. Tu crois que tu me porterais préjudice en revenant à Castelserre avec moi, que ta présence m'empêcherait d'accéder à l'existence que tu as vue?
Oui.
Tu as peur que je ne vieillisse et finisse par mourir pendant que tu resterais jeune?
Oui.
Et si ça m'était égal, si je me moquais du prix à payer?
Je refuserais encore.
Alors je demandais le cœur serré, redoutant sa réponse, quelle qu'elle soit. Et si je te suivais? Si je renonçais à mon autre vie pour partir avec toi? Il parut abasourdi. Il ouvrit la bouche et reprit son souffle à deux reprises, avant de déclarer dans un murmure rauque.
Je ne te laisserai pas faire. Je ne pourrai pas.
Nous nous tûmes alors un long moment. Le feu se consumait peu à peu. Enfin, je posai l'ultime question, la plus terrible. Quand je partirai d'ici, te reverrai-je un jour?
Probablement pas. Ce ne serait pas raisonnable.
Il leva ma main, déposa dans ma paume rendue calleuse par l'épée un tendre baiser, puis la tint entre les siennes. Il me disait adieu. Je le savais. Et je savais aussi que je ne pouvais rien pour l'empêcher. Figé, je sentis un néant glacé m'envahir, comme si Œil de Nuit mourait une seconde fois. Le fou se retirait de mon existence, et j'avais l'impression de me vider de mon sang, que la vie me quittait goutte à goutte. Je compris brusquement que cette image reflétait la réalité.
« Arrête !»
m'écriai-je, mais il était trop tard. Il lâcha ma main avant que j'eusse le temps de la lui arracher. Mon poignet ne portait plus aucune trace. L'empreinte de ses doigts avait disparu. J'ignore comment, il l'avait reprise, et le fil d'art qui nous reliait flottait au vent, rompu.
« Je dois te rendre ta liberté, »
murmura-t-il d'une voix brisée,
« tant que j'en ai encore la force. Laisse-moi au moins ça, Fitz, le fait que j'ai tranché moi-même notre lien, que je n'ai pas gardé ce qui ne m'appartenait pas. »
Je tentais de percevoir sa présence. Je le voyais, mais ne le sentais plus, ni par le vif, ni par l'art, ni par l'odorat. Plus de fou. Mon ami d'enfance, mon compagnon d'adolescence avait disparu. Il avait détourné de moi cette facette de lui-même. Un homme, à la peau brune et aux yeux noisettes, me regardait d'un air compatissant.
« Tu ne peux pas m'infliger ça, » dis-je. « C'est fait, »
répondit-il.
« C'est fait. »
Sur ces derniers mots, toute vigueur parut l'abandonner. Il détourna le visage comme s'il pouvait m'empêcher ainsi de remarquer qu'il pleurait. Je restais immobile, avec une impression d'insensibilité semblable à celle que provoque une terrible blessure.
« Je suis fatigué, »
fit-il d'une petite voix tremblante.
« Je suis encore fatigué. C'est tout. Je crois que je vais me rallonger. »
« Fitz, la reine a besoin de toi !»
L'ours s'était introduit sans effort dans mes pensées. Bientôt, je me trouvais avec le fou pour l'instant.
« C'est à propos du lignage. Vite, s'il te plaît, elle dit. »«
Oui, vite, » répondis-je accablé. Et à peine l'ours se fut-il effacé de mon esprit, qu'Imbre me tapa sur l'épaule. Je lui accordai mon attention.
Puisque tu te trouves sur place, songe à rapporter au moins quelques-uns des manuscrits d'art que tu as découverts. Ils nous seront utiles, je pense.
D'accord, Imbre. Mais j'ai besoin de rester un peu seul. Je vous en prie.
Très bien, fit-il de mauvais gré. Puis il s'adoucit. Que se passe-t-il? Est-il mal à ce point?
Non. Il semble même plutôt se rétablir. Mais je dois prendre du temps pour réfléchir.
Très bien.
Je me retournai vers le fou, mais il avait sombré dans le sommeil, ou bien il feignait si bien de dormir que je n'eus pas le courage de chercher à le réveiller. Il me fallait mettre de l'ordre dans mes pensées. Il y avait sûrement un moyen de l'obliger à revenir sur sa décision. Ne me restait qu'à le trouver.
Je reviens, lui dis-je.
Puis je jetai mon manteau sur mes épaules et sortis. Autant me rendre dans le labyrinthe des anciens pour y récupérer quelques manuscrits d'art. Cela m'occuperait, tandis que je réfléchissais. Demeurer assis à ne rien faire n'aboutissait pas chez moi aux cogitations les plus fructueuses. Je gravis le raidillon et constatai que la brèche dans la glace se révélait moins étroite qu'auparavant. Sans doute, mes allées et venues l'avaient-elle élargie. Toutefois, j'avais à peine pénétré dans la zone baignée par l'éclat artificiel des globes des anciens que je vis une silhouette se diriger vers moi. J'éprouvai un instant d'effroi avant de reconnaître l'homme noir. Il portait un quartier de viande fumée sur l'épaule et, comme nous nous rapprochions, il m'adressa un hochement de tête, puis, avec précaution, déposa son fardeau par terre.
Ces provisions, je volais, beaucoup de fois. Mais pas comme ça, un peu ici, un peu là. Maintenant, ce que je veux, je prends.
Il me regarda d'un air interrogateur.
Et vous?
Comme vous, à peu près. Il y a des années, on a dérobé à mon roi des manuscrits, des écrits d'une valeur particulière. Elle les conservait ici, dans une pièce voisine de sa chambre. Je dois les reprendre.
Ah, les rouleaux, j'ai vu eux, il y a longtemps.
Oui?
J'aide vous.
Je me serais bien passé de son assistance, mais je ne voyais pas comment la refuser poliment. Aussi le remerciai-je, et nous nous mîmes en route de conserve. Chaque fois que nous passions devant une sculpture abîmée ou une niche vide, il secouait la tête. Il me parla des gens qui habitaient la cité à l'époque où il y était arrivé. Lourd avait vu juste. À une époque, les salles de pierre avaient été chauffées, et les anciens venaient y séjourner pour admirer le spectacle étonnant de la glace et de la neige, inconnus dans leur région au climat chaud. Je tentais d'imaginer qu'on pût prendre plaisir à visiter un pays froid, mais cette idée me demeura étrangère. Prilcop, j'ignore comment, avait bloqué la magie qui infusait de la chaleur aux pierres. Il avait aussi essayé de priver la femme pâle de la lumière des anciens, mais en vain. Et malgré le froid, elle était restée. Elle avait obligé l'homme noir à vivre caché et manifesté son mépris pour lui et les anciens associés au dragon en encourageant la destruction de leurs œuvres d'art. Pourtant, elle n'a pas touché à la salle de la carte, fis-je observer.
Elle ne va pas là-bas, peut-être, ou ne comprend pas l'usage et s'en moque. Des portes de voyage, elle ne sait rien. Une fois, une seule fois, pour échapper à elle, j'ai traversé une.
Il secoua la tête à ce souvenir.
Tout faible, tout malade, tout.
Il porta ses poings à ses tempes et feignit de se donner des coups.
Je ne pouvais pas retourner pendant beaucoup de jours. Quand je réussis, il haussa les épaules, elle avait pris ma ville. Mais maintenant, je la reprends.
Il connaissait bien sa cité. Il me fit emprunter un trajet nouveau pour moi. Au couloir plus étroit, peut-être réservé aux domestiques ou aux marchands, et en moins de temps que je ne l'eusse cru possible, nous débouchâmes sur un corridor qui passait devant la chambre de la femme pâle. J'y jetai un coup d'œil. Quelqu'un y avait pénétré après moi. Je m'arrêtai pour contempler la pièce. On avait déplacé, poussé, tiré tous les objets mobiles. D'un coffret à bijoux au sol se déversait un flot de perles, de chaînettes d'argent et de pierres blanches scintillantes, dont certaines avaient commencé à s'enfoncer dans la glace. Prilcop remarqua mon expression étonnée et pénétra calmement dans la chambre.
« Ça marchera, » dit-il,
et il tira du lit une courte pointe de satin qu'il noua par les coins afin de fabriquer un grand sac. Comprenant soudain ce qu'il avait en tête, je me munis d'une autre couverture et l'imitai. Puis, nos baluchons sur l'épaule, nous nous rendîmes dans la petite salle où étaient rangés les manuscrits. Rien ne m'avait préparé au spectacle qui m'attendait. On avait renversé les étagères en les tirant des murs, si bien que leur contenu formait un tas au milieu de la pièce. Non loin de là, les fragments d'un pichet brisé jonchaient le sol, et de nombreux rouleaux étaient imbibés d'huile. La femme pâle gisait sur la glace, manifestement morte. Les moignons desséchés et noircis de ses bras me firent songer à des pattes d'insectes. Sous l'effet du froid et de la disparition de son énergie vitale, son teint avait foncé. La tête rejetée en arrière, elle avait péri, la bouche ouverte comme un félin en train de rugir. Un globe lumineux, arraché à sa fixation, se trouvait près des manuscrits imprégnés d'huile. Il paraissait cabossé, comme si on l'avait roué de coups de pied et de coups de poing. Prilcop et moi restâmes quelque temps silencieux, à contempler la scène. Enfin, j'émis une hypothèse. Elle a dû vouloir faire du feu pour se réchauffer. Elle pensait pouvoir enflammer les manuscrits en cassant le globe. Il secoua la tête d'un air de profonde répugnance. Non. Pour détruire. Son seul désir, c'était. Les dragons détruire. Les autres prophètes détruire. La beauté. Le savoir. Du pied, il poussa un rouleau près du cadavre. Ce qu'elle ne pouvait pas procéder ou commander, elle détruit. Il me regarda et ajouta « Elle ne pouvait pas commander votre fou. » Il se mit à la tâche à mes côtés. Nous plaçâmes dans un des sacs les documents intacts, avec un luxe de précaution, car certains, très anciens, se révélèrent extrêmement fragiles. J'entreposai à part ceux que l'huile avait touchés. J'observai que l'homme noir et moi-même évitions la femme pâle. Quand je dus tirer son corps pour accéder au manuscrit qu'il recouvrait, Prilcop s'écarta et détourna le visage. Quand nous eûmes ramassé tous les documents, je la regardai. « Voulez-vous que je m'occupe de son cadavre ?» demandai-je à mi-voix. Il me dévisagea sans comprendre, puis il hocha lentement la tête. Alors, j'empaquetai la femme pâle dans un de ses somptueux dessus de lit en fourrure et sortis dans le couloir en la traînant derrière moi. Mon compagnon m'indiqua une trappe de taille si réduite que je ne l'eusse sans doute jamais remarquée seule. Elle ouvrait sur un pan incliné, le long duquel montait le grondement lointain des vagues. Prilcop me fit signe d'y introduire la dépouille. Elle disparut dans la glissière, à la grande satisfaction, apparemment, de l'homme noir. Nous retournâmes dans la salle prendre les manuscrits, puis nous engageâmes à nouveau dans les corridors de glace, en tirant derrière nous les sacs plus qu'en les portant. Le parchemin pèse étonnamment lourd. Dans les escaliers, je fis la grimace à chaque heure sur les marches en songeant à la réprimande qu'allait m'infliger Ambre pour les avoir traités ainsi. Mais après tout, il ignorerait dans quel état je les avais trouvés. Avec l'aide de Prilcop, j'amenai les deux sacs jusqu'à la salle aux piliers. Là, nous nous arrêtâmes pour reprendre notre souffle. Malgré son âge, le vieillard possédait l'allant d'un jeune homme. Et je me pris à me demander pour la première fois quelle durée de vie le fou pouvait espérer. Puis, une question plus étrange encore me vint. Où en était-il de son existence? Venait-il seulement d'entamer sa jeunesse? Cette façon de calculer avait-elle un sens pour lui? Un jour, il m'avait dit compter plus d'années qu'œil de nuit et moi réunis. Troublé, je chassais ces interrogations de mon esprit. Je n'avais nulle envie de songer à nos différences, bien qu'elles eussent toujours existé. Notre amitié avait aboli cette frontière pour nous fondre en un seul être. Comme le lien entre œil de nuit et moi avait fait de nous deux un seul être. Et pourtant, je soupirais en suivant l'homme noir qui descendait l'escalier pour se rendre à la salle de la carte. Et pourtant, nous n'en étions pas devenus identiques pour autant. Je restais un homme, avec des préoccupations d'homme, incapable de vivre pleinement dans le présent à l'instar d'œil de nuit ou de prolonger sa vie, au-delà de sa durée naturelle. Était-ce ainsi que me voyait le fou? Ma gorge se noua et je toussotai. Prilcop me jeta un regard par-dessus son épaule, mais garda le silence. Arrivé à destination, il s'arrêta devant la maquette. Il la parcourut des yeux en se frottant les mains, puis, les sourcils levés d'un air interrogateur, il me la désigna d'un geste large. Je touchai de l'index les pierres groupées près de la citadelle des six duchés. Castelser, fis-je. Chez moi. Il acquiesça d'un air entendu, puis, comme le fou avant lui, il indiqua un territoire loin au sud. Chez moi, dit-il. Il montra ensuite une anse sur la côte et ajouta « Claire ». Je compris. Votre école où vous souhaitez retourner. Il se tut, réfléchit puis hocha la tête. Oui, notre école. Une soudaine tristesse envahit son visage. Où nous devons retourner pour faire écrire ce que nous avons appris pour les autres à venir. Très important c'est. Je comprends. L'homme noir posa sur moi un regard empreint de bonté. Non, vous ne comprenez pas. Il se remit à étudier la carte, puis reprit, comme s'il se parlait à lui-même. Le lâcher est difficile, mais vous devez le faire, tous les deux. Lâcher. Sinon, vous faites encore des changements sans savoir. Si, à cause de lui, les choses que vous faites font des changements, quoi se passe? Personne peut dire. Même petite chose. Vous apportez lui du pain, il mange. Si vous apportez pas lui le pain, quelqu'un autre le mange. Voyez? Changement. Petit changement. À lui, vous donne votre temps, votre parler, votre amitié. Qui reçoit pas votre temps, alors? Un grand changement, peut-être, je pense. Lâchez, changeur du fou. Votre temps ensemble terminé est achevé. Cela ne le regardait nullement et je faillis le lui faire remarquer. Mais il affichait une expression si bienveillante et compatissante que ma colère mourut aussitôt que née. Repartons, proposa-t-il. Comme j'allais acquiescer, l'ours s'imposa dans mes pensées.
Fitz, tu as fini. La reine attend toujours.
Je poussai un soupir de lassitude. Mieux valait répondre à la demande d'Imbre, puis essayer d'obtenir ensuite un peu de temps libre. Oui, j'ai fini. J'ai réuni les manuscrits d'art. Retrouve-moi au pierre témoin pour m'aider à les transporter.
Non, je mange de la tarte à la framboise, avec de la crème.
Après la tarte, alors. J'éprouvai un brusque élan de compréhension pour le petit homme qui refusait d'interrompre son repas pour me rejoindre. Prilcop avait atteint le bas des marches. Il leva vers moi un regard interrogateur. « Je dois retourner chez moi un moment, » expliquai-je. « Dites au fou que je reviendrai au plus vite. Je rapporterai encore des vivres, des fruits et du pain frais. » Il prit l'air effrayé. « Par les portails de pierre. Sitôt, passage c'est. Stupide même. » Il me fit un signe d'invite. « Venir chez Prilcop, une nuit, un jour, une nuit, un jour, et puis repartir par les pierres, si vous obligez. » Hélas, je dois y aller tout de suite. Je ne voulais revoir le fou et lui parler qu'après avoir trouvé un moyen de contrecarrer ses arguments. « Changeur, vous pouvez faire ça. Vous l'a fait déjà. » Plusieurs fois. Il remonta quelques marches, le front plissé d'inquiétude. « Jamais je ne vois faire ça si souvent, si rapproché. Prudence alors. Ne pas revenir trop vite. Reposer. » « Je l'ai déjà fait, » répétai-je. Je me remémorai mes passages successifs par les pliers d'art, en compagnie de devoirs, en ce jour d'il y avait bien longtemps où nous avions fui la plage des autres. N'ayez pas peur pour moi. Malgré mes airs intrépides, je me demandais si je ne commettais pas une bêtise en traversant à nouveau les pierres,
Chaque fois que je me rappelle ce moment, je ne parviens pas à comprendre ce qui me prit alors. La rupture de notre lien par le fou et la peine que cela me causait me poussaient-elles à m'éloigner en hâte? Franchement, je ne le crois pas. Je pense plutôt que je n'avais pas assez dormi depuis plusieurs jours. Je repris l'escalier qui conduisait à la salle du pilier. L'homme noir me suivit anxieux.
« Sûr vous est, sûr de ça !»
Je me baissai pour saisir les sacs par les nœuds. « Ça ira, » répondis-je avec assurance. « Dites au fou que je reviendrai. » D'une main, je pris les deux baluchons, ouvris grand l'autre et l'appliquai sur le pilier. J'émergeais dans une nuit constellée.